Je ne vous ferai pas d'injure pour, en tous les cas, ceux qui étaient là la dernière fois, de vous poser la question, si vous vous rappelez, sur quoi nous avons réfléchi. Donc, c'était au mois de novembre, à Châtenois, hein, puis c'était aussi un culte commun. Donc, comme je suis sûr que tout le monde s'en rappelle, même ceux qui n'étaient pas là, je ne vais pas vous poser la question. Et juste vous rappeler, parce que ce que j'aimerais partager avec vous est un prolongement de cela. Nous avions abordé la question de ce que Dieu peut faire avec nos petits moyens et nos moyens limités. Hein. On avait parlé de deux textes, hein, dans l'Exode et puis l'autre dans le livre, dans l'Évangile de Matthieu, avec le bâton de Moïse, si vous vous rappelez, puis dans l'Évangile de Matthieu, c'était les 5 pains et les 2 poissons. L'idée centrale, c'était que nous ne devons pas nous laisser décourager par nos petits moyens, parce que ça ne nous discrédite pas aux yeux du Seigneur. Que Dieu ne se laisse pas freiner par nos moyens limités, qu'il ne nous reproche pas de ne pas mettre à sa disposition ce que nous n'avons pas, mais qu'il nous invite à mettre à sa disposition ce que nous avons, ce que nous sommes, même si nous avons l'impression que c'est peut-être pas grand-chose, mais qu'avec cela, Dieu agit. Et nous avions dit que dans la mission de Dieu, ce n'était pas tant une question de moyens qu'une question d'obéissance et de fidélité avec ce que nous avons. Maintenant, il pourrait y avoir un danger ou un piège avec cette manière de voir les choses, c'est de, consciemment ou pas, réduire notre compréhension du projet de Dieu à la mesure de nos moyens limités et oublier peut-être la grandeur du projet de Dieu, de ce que Dieu a en vue, pas seulement pour nos églises locales, mais pour le monde. C'est pas parce que nous avons des moyens petits et limités que Dieu pense petits et limités. Lui, il pense grand et large. Et sans doute même bien plus grand et bien plus large que ce que nous imaginons souvent. Et c'est à cela que je vous invite à réfléchir ce matin, à essayer de nous rappeler un petit peu cet ensemble du projet de Dieu, à la fois pour nous rappeler sa grandeur, mais aussi pour nous rappeler ce vers quoi il nous invite à aller avec nos petits moyens. Parce que parfois ce qui nous manque, c'est un peu l'objectif. On ne sait pas très bien quel est l'objectif et du coup, bah, le chemin, on a du mal à savoir ce qu'on doit faire ou pas faire. Et à partir de là, cela nous aidera aussi à reconsidérer peut-être un peu la manière d'agir de Dieu. Comment il intègre ou vers quoi il nous conduit avec nos forces et nos faiblesses et nos limites. Alors je commence avec une question, c'est un peu mon côté prof hein, qui ressort. Si vous deviez choisir, soit un verset ou un passage ou un thème ou un mot de la Bible pour résumer l'ensemble du projet de Dieu, lequel serait-ce? Quel passage, quel mot, quel thème? Alors, je ne vous demande pas de raconter toute la Bible, hein, en un mot ou en une phrase. Comment est-ce que vous résumeriez le projet de Dieu dans la Bible?
Un projet de bonheur,
donc bonheur, ok.
Aimer les autres, s'aimer soi-même et aimer les autres.
Ouais, s'aimer, donc l'amour, hein, de s'aimer soi-même, l'amour du prochain, ok. Il y a beaucoup de bonnes réponses, hein, vous inquiétez pas. Après, c'est comme à l'école des fans, à l'époque, tout le monde a 10 sur 10.
La bienveillance envers les autres.
La bienveillance, ok. D'autres suggestions?
Aimer.
Shalom. Ah, ça commence, on commence à entendre les étudiants là. Shalom, tout le monde sait ce que ça veut dire, shalom?
Oui.
C'est la paix, hein, en hébreu. Le terme hébreu pour dire la paix. Maudier, je ne voudrais pas vous couper la parole.
L'humilité.
Alors je vous propose ma version. C'est un terme, quand vous allez le voir, vous allez tout comprendre, tout de suite. C'est dans Éphésiens 1, et c'est en un mot. Une fois que vous avez lu ça, vous avez tout compris du projet de Dieu. Anna Kephalaios Astai, c'est du grec, hein. Vous savez que le Nouveau Testament a été écrit en grec, hein, à l'origine. Et c'est un terme, Anna Kephalaios Astai. Voilà, je pourrais presque m'arrêter là, parce que je suis sûr que vous avez tout compris maintenant avec ça, c'est même pas la peine que je développe, mais si jamais certains avaient quelques problèmes avec ce terme, on va quand même en dire quelques mots. C'est un terme que nous trouvons dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au premier chapitre, dans les versets 3 à 10 que j'aimerais lire avec vous. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, l'apôtre Paul qui écrit, ce Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, en Christ donc, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis, et c'est là que vient notre fameux terme, réunir, ou dans d'autres traductions, récapituler sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Récapituler en un seul, ou sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Alors le texte est dense, hein. C'est un texte compliqué. C'est encore plus compliqué si on s'imagine que dans le texte original, en grec, c'est une seule phrase, du début à la fin, tout ce que j'ai lu, quoi, hein. Donc c'est pas évident de s'y retrouver là-dedans et puis voir un petit peu quelle est la progression. Mais il y a quand même un certain nombre d'éléments qui sont intéressants. Le fait qu'il y a une progression dans ce texte entre le passé, ce que Dieu a fait avant, ce qui est dans le présent et ce qui est à venir, ce qui est l'aboutissement. Dans les versets 3 à 6, la première section, on est dans la dimension du passé, ce que Dieu a fait. Il nous a élus, choisis, avant la fondation du monde, avec un projet pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Versets 7 à 8, on est plutôt dans la dimension du présent, l'événement de la rédemption. Nous avons la rédemption, le pardon. C'est ce que Dieu a dû faire dans le présent pour rendre le projet possible, parce qu'entre-temps, il y a eu la chute et le péché. Et dans les versets 9 à 10, on a ce qui est la projection dans le futur, ce que Dieu a en réserve, ce qu'il fera au terme, ce qu'il se propose de faire, le mystère de sa volonté de le réaliser quand les temps seraient accomplis, récapituler toutes choses dans le Christ. Ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et déjà là, même si on ne comprend pas le terme, on se rend compte que c'est beaucoup plus que mon petit salut personnel. Même si c'est important, bien sûr. Et ça fait partie du projet. Et Dieu veut nous sauver les uns et les autres, nous donner une espérance d'un point de vue individuel, personnel. Mais son projet est beaucoup plus que cela. Il s'agit de récapituler en Christ tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre avec ce fameux terme « récapituler dans le Christ » ? C'est un terme qui a, en fait, dans son sens, trois aspects qui sont pas contradictoires, qui se complètent les uns les autres. Le premier, c'est l'idée de résumer, de récapituler, d'unir. L'idée, c'est de donner une cohésion, donner la cohésion à quelque chose. On retrouve le même sens dans un autre passage dans le Nouveau Testament, quand Paul dit, c'est dans l'Épître aux Romains, que tous les commandements de la loi sont résumés en un seul. Hein, qui est de s'aimer les uns les autres. Voilà, c'est résumer, donner la cohésion, donner ce qui résume, ce qui donne le sens à l'ensemble. Parce que nous, on n'a que des bouts à droite, à gauche, et puis en plus, on a un peu perdu le fil. L'idée, c'est voilà, de redonner la cohésion à ce qui est l'ensemble du projet de Dieu. C'est le premier sens. Le deuxième, c'est l'idée de renouveler et restaurer. Et là, on intègre une autre dimension qui est celle de réparer, de refaire à neuf quelque chose qui a été cassé, quelque chose qui a été brisé, quelque chose qui ne s'est pas déroulé comme ça aurait dû. Retrouver une unité perdue. Réconcilier. Quand on parle de réconcilier, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été brisé, une relation qui a été abîmée. Et le troisième sens, c'est faire de Christ la tête, c'est-à-dire tout mettre sous l'autorité du Seigneur qui va régner sur cet ensemble, sur ce projet. L'idée donc d'une soumission, d'une subordination de toute chose au Seigneur qui sera maître et qui sera aussi la source de la vie. Autrement dit, le projet auquel Dieu a pensé, ce qu'il a voulu dès avant la fondation du monde, c'est de tout, et là on parle bien de tout l'univers. Ça comprend aussi l'univers matériel, physique, hein, de tout unir, restaurer, réunir, réconcilier sous l'autorité du Christ. Ce qui veut dire que Dieu, dès le départ, dès la création, a eu ce projet qui était de tout unifier, réunifier en Christ. On a parfois l'idée de la création, surtout quand on lit le texte de la Genèse, on voit Dieu dit que tout était bon, ok c'est bon, et puis ça reste comme ça, c'est statique. Tout est bon, et puis il n'y a plus rien qui bouge. Quoi. C'est pas ça l'idée. Dieu crée quelque chose qui est bon, et puis il charge l'être humain d'une mission qui est de remplir la terre, de la soumettre. Donc il y a quelque chose de dynamique, c'est-à-dire qu'il y a un projet qui doit être réalisé par cet être humain. Et ça, c'était bon au départ, c'était ce que voulait Dieu, que l'être humain réalise ce projet d'amener cet univers, la terre entière, à partir d'Éden, de tout, de donner cette cohérence en Christ. Mais nous savons que la chute est intervenue dans ce projet et qu'à cause de cela, Voilà, le projet, on a pris un coup dans l'aile, comme on dit. Et cette réalisation que Dieu voulait au départ n'était plus possible, en tous les cas pas comme Dieu l'avait prévu au départ. Mais l'idée principale, et ce que dit Paul, c'est que malgré la chute qui est intervenue, Dieu réalisera son projet tel qu'il l'a voulu, tel qu'il l'a pensé, aussi grand et aussi large qu'il l'a pensé. Et c'est pour ça qu'il y a, dans le passage qu'on a lu tout à l'heure, intégré au milieu cette dimension du salut, de la rédemption, ce que nous avons en Christ, parce que entre ce qui est le projet du passé de Dieu et puis ce qui est à venir, il y a ce besoin aujourd'hui du salut de l'être humain, de cette rédemption, de ce rachat. Mais la chute, aussi grave soit-elle, n'en reste pas moins que un accident dans le projet de Dieu. Et un accident dans le sens que ça n'empêchera pas la réalisation de ce projet. Maintenant, la question, c'est de savoir ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui. En quoi cette compréhension des choses doit orienter nos vies, et qu'est-ce que concrètement ça veut dire? Dieu qui veut tout réunir, récapituler dans le Christ, ok, c'est sympa comme ça, c'est assez philosophique, mais c'est peut-être un peu abstrait aussi. Qu'est-ce que ça change pour nous aujourd'hui? J'aimerais répondre à cette question en attirant votre attention sur ce que Paul dit par rapport aux Éphésiens. Il a écrit ce passage aux Éphésiens, donc une église, et si on lit la lettre aux Éphésiens, on comprend quelle forme cette réunion, récapitulation de toutes choses en Christ, quelle forme ça prend pour les Éphésiens. Et à partir de là, ça commence à devenir un peu plus concret pour nous aussi, pour nous aider à y voir plus clair. Quand Paul écrit à ses Éphésiens, il leur écrit dans un contexte qui est assez particulier. Les Éphésiens, c'est une des églises du Nouveau Testament, hein. Une église dans laquelle des membres d'origines complètement diverses doivent apprendre à vivre ensemble. Ces membres d'origines diverses, ce sont des chrétiens d'origine juive, donc ils viennent du judaïsme et qui se sont convertis à Jésus-Christ, mais qui quelque part restent attachés aussi à la manière de vivre le culte et entre autres et à certaines pratiques de la loi juive, pratiques alimentaires, la circoncision et ainsi de suite. Et à côté d'eux, il y a d'autres chrétiens, d'autres personnes qui se sont converties mais qui viennent du monde païen, des Romains, des Grecs. Et eux, ils n'ont pas du tout ce même arrière-plan culturel. Circoncision, ils ne connaissent pas. Les lois alimentaires, ce n'est pas du tout les mêmes. Mais ils se sont convertis à Jésus-Christ et ils se retrouvent dans la même église parce que, évidemment, ça aurait peut-être été plus simple de dire « Vous, les Juifs, vous faites votre église de votre côté. Vous, les Romains, vous faites votre église de votre côté. » Ça sera beaucoup plus facile pour tout le monde. Mais voilà, ce n'est pas le projet de Dieu. Et ce que Paul rappelle, c'est de dire « Vous êtes appelés à faire église ensemble, malgré vos origines différentes. » Deux mondes complètement antagonistes. Il faut s'imaginer, je ne crois pas qu'on réalise aujourd'hui ce que ça veut dire. C'est dans la société des Juifs et des Romains, ils ne se parlent pas, ils se méprisent. Les Romains, c'est les occupants, hein. C'est des gens qui ont mis à feu et à sang pas mal de villages. Le Juif qui voit un Romain, il voit quelqu'un qui fait couler du sang. Peut-être qu'aujourd'hui, on pourrait dire que ça serait dans le contexte actuel des chrétiens d'origine russe et des chrétiens d'origine ukrainienne qui doivent vivre ensemble l'Église. On peut s'imaginer ce que ça doit représenter quand une partie de ta famille a été massacrée par l'autre peuple, après la Deuxième Guerre mondiale, entre les Français et les Allemands. Enfin voilà, c'est ce genre de difficulté Et ces deux mondes doivent maintenant apprendre à faire église ensemble. C'est exactement ce que dit Paul un peu plus loin dans la lettre quand il parle du mystère de Dieu. Ce même terme qu'il emploie dans ce qu'on a lu tout à l'heure, je remets juste le passage de tout à l'heure. Il parle qu'il nous a fait connaître, donc Dieu nous a fait connaître le mystère, hein, il emploie ce terme, le mystère de sa volonté, ce projet hein, qui est de tout accomplir, de tout récapituler en Christ. Et on retrouve le même terme de mystère un peu plus loin dans l'épître aux Éphésiens. Ah ben je l'avais mis là, pardon, excusez-moi. Fait connaître le mystère de sa volonté, qu'on retrouve un petit peu plus loin lorsque Paul parle et décrit ce qu'est ce mystère, cette récapitulation de toutes choses en Christ. Paul dit « Voilà l'intelligence que j'ai du mystère de Christ ». C'est au chapitre 3, versets 4 à 7. L'intelligence que j'ai du mystère du Christ, dit Paul, ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Et là, verset 6, Paul décrit ce mystère, la révélation de ce mystère. Les païens ont un même héritage, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Ce qui était mystérieux, ce qui n'était pas encore connu, est révélé maintenant. La forme concrète que prend cette récapitulation de toutes choses en Christ pour les Éphésiens, c'est de comprendre que les non-juifs et les juifs ont le même accès. Qu'il n'y en a pas un qui est là et l'autre qui est là, qui sont ensemble et qu'ils doivent apprendre à se réconcilier et vivre ensemble. On retrouve cela un petit peu plus détaillé dans un autre passage, toujours de l'Épître aux Éphésiens. Je lis à partir du verset 13. « Mais maintenant, en Christ, vous qui autrefois étiez loin » là il parle des croyants d'origine païenne. Vous êtes devenus proches par le sang de Jésus-Christ. Car c'est lui notre paix. Lui qui des deux, chrétien d'origine juive, chrétien d'origine païenne, des deux, il n'en a fait qu'un en détruisant le mur de séparation, l'inimitié. Il a dans sa chair annulé la loi avec ses commandements et leurs dispositions pour créer en sa personne, avec les deux, un seul homme nouveau. Une seule entité nouvelle, une identité collective ici, pour les réconcilier avec Dieu, mais aussi tous deux en un seul corps, donc les réconcilier les uns avec les autres par sa croix, en faisant mourir par elle l'inimitié. Il est venu, je poursuis la lecture, annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez loin, la paix à ceux qui étaient proches, car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Pour les Éphésiens, et c'est là que ça devient concret pour nous aussi, la forme particulière, la forme concrète, visible, que prend cette récapitulation de toutes choses en Christ, c'est l'unité qu'ils sont appelés à construire ensemble, à vivre ensemble. Leur unité et même leur réconciliation. Entrer dans cette logique-là, c'est comme faire un pas dans l'accomplissement de ce grand projet de tout réunir en Christ. Quand on parle de réconciliation dans nos églises, c'est important, mais ce n'est pas juste pour qu'on vive un peu mieux ensemble, pour que ce soit pas moins compliqué, que ce soit un peu moins compliqué. Bien sûr que ça fait partie, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est rentrer dans le projet que Dieu a en vue pour ce monde, de tout réconcilier en Christ. Chaque fois que nous entrons dans des démarches qui nous rapprochent les uns des autres, au-delà de nos différences, chaque fois que nous apaisons des tensions, chaque fois que nous cherchons le chemin de la paix, chaque fois que nous venons en aide à quelqu'un, et c'est l'actualité aujourd'hui, que nous essayons par nos petits moyens de faire du bien autour de nous, de contribuer à davantage de paix et de justice, chaque fois que nous faisons cela, même si nous avons l'impression que c'est peut-être pas grand-chose, parce que ça n'est qu'une goutte d'eau dans un océan de souffrance, il n'empêche que nous contribuons à l'avancement, à la réalisation de ce projet cosmique de Dieu pour ce monde. Et à l'inverse, faut le dire aussi, à chaque fois que nous restons bloqués sur ce qui nous empêche d'aller les uns vers les autres, chaque fois que nous justifions nos égoïsmes, nos rivalités ou nos tensions, chaque fois que nous ne cherchons pas véritablement le chemin de la paix, nous freinons l'accomplissement de ce projet de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu n'abandonne pas. Malgré la chute, malgré le péché, malgré les limites des êtres humains que nous sommes et nos loupés, nos ratés, notre péché, Dieu entend bien réaliser son projet avec nous. Tout est important là-dedans. Dieu entend réaliser son projet avec nous. Et cela arrivera, c'est ce que dit Paul. Lorsque les temps sont accomplis, cela arrivera. C'est intéressant de voir dans la Bible les différentes étapes que Dieu a mis en œuvre et qui conduisent vers l'aboutissement. De ce projet. C'est intéressant parce que ça met en évidence la manière dont Dieu travaille avec nous. Comment il intègre des choses qu'il n'a pas voulu au départ, qui n'étaient pas dans son projet, mais qui sont là maintenant. Et il travaille avec cela. Malgré nos erreurs, malgré nos résistances, malgré nos limites, qu'elles soient personnelles ou collectives, Dieu continue, étape après étape, à nous faire avancer. Et on n'a pas le temps de rentrer dans le détail de chacune de ces étapes, ça serait beaucoup trop long, mais j'aimerais juste vous inviter, en regardant quelques photos, à réfléchir un petit peu à ce projet, comment Dieu a construit les choses. Parce que ça nous dit aussi des choses utiles quant à la manière dont il nous intègre avec nos faiblesses dans son grand projet. Alors de nouveau, histoire que vous ne vous endormiez pas trop, je vous mets un petit peu à profit avec quelques images et à vous de deviner à quoi cela fait allusion. Un récit, alors c'est une proposition, en cette étape, il y a d'autres qui proposent plus. Les étapes du projet de Dieu. Avec cette image, pour le moment c'est facile. Je pense en tous les cas. Ça fait penser à quoi ça?
C'est Dieu. Quelqu'un fait des efforts à ce.
Ouais. Vous connaissez quand même ce. Bon, c'est un gros plan d'une partie de la chapelle Sixties, de Michel-Ange. Et le tableau, c'est la création. On commence par le début quand même. Première étape du projet de Dieu, cette création avec ce qu'on a dit. Ce à quoi cette création est destinée, c'est ce que Dieu commence à construire. Deuxième étape, donc ça c'est création, ok. Deuxième étape,
Babel,
qui symbolise quoi?
La désobéissance,
la chute, la rébellion, la catastrophe, là où Dieu aurait pu dire: c'est fini, j'arrête, j'abandonne, ils sont irrécupérables, ce n'est pas la peine. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Une étape qui suit, avec Abraham et Sarah. Et là, il y a un terme qu'on utilise parfois. Dieu choisit, il élit. La thématique de l'élection, alors pareil, hein, c'est d'actualité, mais ce n'est pas des présidentielles dont on parle en ce moment. C'est l'idée que Dieu choisit un couple et à partir de là, il va reconstruire ou essayer de reconstruire avec Abraham, Sarah. Lorsque Dieu appelle Abraham, il dit « Voilà, je ferai de toi une grande nation, pas pour que tu sois une grande nation, mais pour que toutes les nations de la terre, donc ça veut dire les païens, là, tous ceux qui ne sont pas juifs, ou tous ceux qui ne seront pas juifs, que tout cela puisse être béni au travers de ce peuple-là. » Donc on voit, Dieu continue, même s'il choisit un couple, un peuple, il continue à avoir une visée qui est universelle, cosmique. Mais nous savons aussi, là, encore une fois, ça fait des allusions difficiles aujourd'hui, nous savons que ce peuple n'arrive pas, n'est pas en mesure, parce qu'il n'y a pas encore la nouvelle alliance, n'est pas en mesure d'être fidèle, obéissant. Il y a la thématique de l'exil, ce peuple qui se retrouve en déportation. Il ne faudrait pas, à partir de ce que je suis en train de dire, déduire que les situations d'exil aujourd'hui que nous connaissons sont des résultats de la désobéissance d'un peuple. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Dans l'Ancien Testament, c'est le jugement de Dieu sur le peuple d'Israël. Et je m'arrête là par rapport à la thématique de l'exil, juste pour que ce soit clair, parce que ce ne faudrait pas mal comprendre la chose. Mais c'est la réalité. Ce peuple arrive à un échec. Il se retrouve en situation d'exil et Dieu, une nouvelle fois, doit intervenir. Première démarche de salut, là c'est relativement clair, l'œuvre du Christ à la croix. Première étape de restauration. Jésus vient montrer ce que devrait être l'être humain. Il vient apporter le salut, il vient mourir pour nous apporter le salut aussi, mais vient nous montrer un chemin, une manière de vivre. Ce qui est juste devant Dieu. C'est aussi ça qu'il est venu faire, Jésus. Pour nous dire, voilà, c'est à ça que vous devez ressembler pour que le projet puisse avancer. On commence à être dans le un peu plus abstrait. On fait penser à quoi ça? Deuxième étape de restauration. Si vous pensez à ce qui vient après Jésus en termes de restauration. Le Saint-Esprit, merci. L'Église. La constitution d'un nouveau peuple. Après l'œuvre du Christ, à la Pentecôte, avec cet esprit qui est répandu sur toute chair, c'est la constitution d'un nouveau peuple de Dieu qui est amené, et ça, c'est nous, hein, c'est de nous dont il est question aujourd'hui, qui est appelé à être ce peuple fidèle dans la construction de ce projet. Parce qu'à la différence de l'ancienne alliance, ce qui change, c'est qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit est en nous. Ce n'est plus uniquement quelque chose d'extérieur, ça repose sur la transformation de nos cœurs, sur ce que Dieu peut faire avec nous de manière beaucoup plus, en tous les cas dans la théorie, beaucoup plus grande et vaste, parce que il habite en nous, dans nos cœurs individuels, mais aussi il est au milieu de nos églises, de nos réalités. Et à partir de là, il y a un potentiel, il y a des choses qui sont possibles aujourd'hui, qui ne l'étaient pas dans l'ancienne alliance. Et Dieu continue, et il œuvre au travers de l'Église, donc, et de son Saint-Esprit, jusqu'à la réalisation de ce grand projet. On est encore dans quelque chose d'un petit peu abstrait, mais que la Bible présente comme la nouvelle création, les nouveaux cieux, la nouvelle terre, ce qui est l'aboutissement final du projet de Dieu. Alors que pouvons-nous déduire de cela? Et voilà, que retenir en guise de conclusion? J'aimerais vous proposer deux applications qui me semblent découler de ce qu'on a vu, avec cette perspective d'un grand projet que Dieu a eu en vue, en perspective, dès avant la fondation du monde, donc de tout réunir en Christ. Je le remets comme ça, ça vous marquera peut-être un petit peu. Deux applications qui me semblent découler de cela. D'abord, je crois que cette compréhension du projet de Dieu au sens large, dans toutes ses dimensions, doit être pour nous un guide, un fil conducteur pour notre vie. Et ce, même si nous sommes souvent à nos limites, même si nous sommes souvent confrontés à nos faiblesses, nos petits moyens, et parfois nos loupés aussi, et nos ratés. Mais il n'empêche que c'est important de garder cette perspective que Dieu œuvre et nous intègre dans son œuvre pour quelque chose qui est le renouvellement de l'univers. Et ça veut dire que des thématiques comme le soin à la création, comme la manière d'être en bonne intelligence d'un point de vue social, font partie, je ne dis pas que ce n'est pas notre salut individuel, mais ça fait partie du grand projet de Dieu. Et ce que nous faisons dans ces directions aujourd'hui contribue aussi. Ce sont différents aspects qui sont complémentaires. Et comme je disais tout à l'heure, si nous avons conscience que tout ce que nous faisons contribue à l'avancement de ce projet, cela nous aide aussi à ne pas nous décourager parfois du peu que nous pouvons faire. Et aujourd'hui particulièrement, on se dit, ouais, c'est tellement énorme la souffrance qu'il y a dans ce conflit, mais il y en a d'autres, hein, et on se dit, bah oui, aider une famille, aider une personne, qu'est-ce que ça va changer? Bah si, ça change tout, parce que c'est un pas de plus vers ce projet, vers cette construction. Ça change peut-être pas le cours de la guerre, je suis d'accord, mais pour cette famille, ça change tout. Pour les personnes, ça change tout. Et c'est cet ensemble de choses qui fait que, malgré la tragédie, Dieu continue à construire ce projet. Et si on garde cette perspective, je pense que ça peut nous aider et nous encourager à continuer, même si autour de nous, beaucoup de choses peuvent malheureusement plutôt nous décourager ou nous faire douter de l'utilité de ce que nous faisons. Et puis, deuxième application, je crois que en gardant à l'esprit cette perspective du grand projet de Dieu, on peut aussi se réjouir, être encouragé par la manière dont Dieu travaille avec nous. On l'a vu dans son projet, dans les étapes du projet, il y a des échecs, il y a des loupés, il y a Babel, il y a la chute, il y a l'exil, il y a des trucs qui ne se passent pas comme il faut. Et ça, c'est pas parce qu'on est dans la Nouvelle Alliance qu'il n'y a pas des échecs et qu'il n'y a pas des loupés. On se casse la figure parfois, et parfois en beauté. Parfois, ce n'est pas volontaire. Parfois, c'est lié à la dureté de nos cœurs, à notre péché. Il y a plein de choses qui peuvent faire. Mais Dieu continue. Dieu continue et il intègre parfois même nos ratés, même nos loupés, dans la poursuite de son projet. Cela vaut à notre niveau personnel, cela vaut aussi pour nous en tant qu'Église. Dieu n'abandonne pas. Un guide, un fil conducteur, un encouragement à poursuivre parce que Dieu n'abandonne pas, ni nous, ni son projet. Que Dieu nous fasse la grâce déjà d'entrer dans la perspective de son projet, d'élargir nos horizons, penser plus large que ce que nous avons parfois un peu trop restreint dans notre esprit. Que Dieu nous fasse la grâce de mieux comprendre ce à quoi nous sommes appelés et ce dans quoi nous sommes appelés à rentrer avec nos petits moyens en vue de l'accomplissement de son projet. Et qu'ainsi, nous puissions toujours à nouveau nous mettre ou nous remettre en route, j'ose pas dire en marche, en route dans ce projet, parce que c'est ce à quoi Dieu nous appelle pour sa gloire et aussi pour notre bien, pour que nous soyons ce que nous sommes appelés à être en tant qu'être humain. Que le Seigneur vous bénisse, vous accompagne dans vos églises respectives, je le dis au pluriel, puisqu'il y en a deux qui sont représentées ici, dans la poursuite de votre œuvre dans ce grand projet de Dieu. Amen.
Amen.